Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. L'antisémitisme explose en France. Le ministre de l'Intérieur a fourni hier des chiffres alarmants alors que de nouveaux actes antisémites ont été dénoncés ces derniers jours.
C'est un conseiller de l'ombre, fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron, qui quitte l'Élysée. Ismaël Emelien veut se consacrer à son livre.
Et le nom d'Ismaël Emelien est par ailleurs apparu ces dernières semaines dans l'enquête sur l'affaire Benalla. Mediapart révèle aujourd'hui que l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron est impliqué de bout en bout dans plusieurs contrats de sécurité passés avec des hommes d'affaires russes. À la une, à l'étranger, le procès historique des 12 dirigeants indépendantistes espagnols pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne. Et puis, en campagne à El Paso, à la frontière avec le Mexique, Donald Trump a martelé hier soir aux États-Unis que les murs permettaient de sauver des vies, acclamées par ses supporters.
Et puis, dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour sur l'Algérie. Comment expliquer la nouvelle candidature d'Abdelaziz Bouteflika? On posera la question au journaliste au Monde diplomatique, Akram Belkaïd.
L'antisémitisme se répand comme un poison, comme un fiel. Il pourrit les esprits, il assassine. C'est ce qui s'est passé pour Ilan Halimi, a rappelé hier soir le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner depuis Sainte-Geneviève-des-Bois où Ilan Halimi, jeune juif de 23 ans, avait été mortellement blessé en 2006 par Youssouf Fofana après avoir été séquestré et torturé par une vingtaine de personnes qui se faisaient appeler le gang des barbares. Un arbre planté à la mémoire d'Ilan Halimi a été découvert scié hier dans cette commune de l'Essonne, deux jours avant une cérémonie qui devait commémorer le 13e anniversaire de sa mort. L'antisémitisme, un mal qui continue de ronger la société française, Christophe Castaner indique que les actes antisémites ont augmenté de 74% l'an dernier. Bonjour Antoine Marette.
Bonjour.
Ces actes antisémites repartent donc à la hausse après deux années de baisse. Le Premier ministre avait déjà sonné l'alarme en novembre dernier, tout comme le président du CRIF qui rappelait que les Français juifs représentent à peine 1% de la population de notre pays et concentrent à eux seuls plus de 50% des violences racistes. Alors pourquoi l'antisémitisme explose-t-il en France ?
Eh bien, sans doute parce qu'il y a convergence de plusieurs phénomènes. Depuis les années 2000, on a assisté à l'importation dans certaines populations d'origine immigrée du conflit israélo-palestinien. À cet antisémitisme, parfois qualifié par les principaux intéressés d'antisionisme, s'est aggloméré à un antisémitisme beaucoup plus ancien avec des stéréotypes tels que « les juifs ont de l'argent ». C'est ainsi que l'on a assisté en 2006 au meurtre d'Ilan Halimi, un enlèvement crapuleux au départ pour voler de l'argent, mais avec des préjugés antisémites. Il est juif, donc il a de l'argent. S'en sont suivis des tortures liées à sa judaïté, tortures qui ont abouti à la mort donc d'Ilan Halimi. Mohamed Merah, en 2012, il grandit dans une famille fortement imprégnée par l'antisémitisme. Il rentre dans une école juive à Toulouse et tue 4 personnes, dont 3 enfants. La prise d'otage de l'hypercachère en janvier 2015, porte de Vincennes à Paris, 4 personnes juives sont tuées par Hamedi Coulibaly. Il évoque notamment les persécutions dont sont victimes les musulmans en Palestine. Plus récemment, en avril 2017, il y a eu le meurtre de Sarah Halimi, une femme juive de 65 ans défenestrée de son domicile parisien après avoir été rouée de coups. Le caractère antisémite du meurtre a été retenu comme circonstance aggravante par la juge d'instruction.
Et à tous ces meurtres, Antoine, s'ajoutent d'autres violences, des injures, des inscriptions antisémites. Et cet ensemble a donc progressé de 74% l'an dernier.
Effectivement, il y a sans doute derrière ces chiffres le retour aussi d'un antisémitisme d'extrême droite ou d'ultra-droite. Un antisémitisme qui assimile les personnes juives au système contre lequel certains mouvements révolutionnaires luttent, des propos antisémites ou encore les quenelles, salut nazi inversé inventé par le polémiste Dieudonné Mbala Mbala, que l'on a pu voir ou entendre dans certaines manifestations des Gilets jaunes, mais aussi des tags du style Macron Jews Bitch, Macron pute des juifs qui essaiment en France, montrent la volonté de récupération par cette extrême droite anti-juive de ce mouvement de protestation.
Antoine Marette, merci pour ces explications. La formule des premiers de cordée ou bien Make our planet great again, c'était lui, Ismaël Emelien, conseiller spécial d'Emmanuel Macron, annoncé hier qu'il démissionnait de l'Élysée par éthique personnelle, explique-t-il dans les pages du Point, avant la parution d'un livre qu'il co-signe sur le progressisme. Emmanuel Macron ayant interdit à ses conseillers prier de publier pendant qu'ils sont en poste à l'Élysée. Mais le nom d'Ismaël Emelien s'est retrouvé au cœur d'extraits téléphoniques diffusés récemment par Mediapart, où l'on entendait Alexandre Benalla dire à quel point il pouvait compter sur le soutien d'Isma après les violences du 1er mai dernier à Paris. Des violences filmées, Ismaël Emelien est soupçonné d'avoir récupéré illégalement des vidéos tournées ce 1er mai. Et Mediapart publie de nouvelles informations sur Alexandre Benalla. L'ancien chef adjoint de cabinet d'Emmanuel Macron aurait été impliqué de bout en bout quand il était encore à l'Élysée et même après pour négocier des contrats de sécurité avec des hommes d'affaires russes, Stéphane Robert.
C'est Alexandre Benalla en personne, selon Mediapart, qui a négocié le tout premier contrat pour assurer la sécurité de l'homme d'affaires russe Iskander Mahmoudov, lequel contrat aurait été signé en juin 2018 pour un montant de 294 000 euros. Ces affirmations s'appuient sur le témoignage d'un ancien policier, dirigeant de la société Velour, société sous-traitante sollicitée pour la mise en œuvre de ce contrat. Il faut que chacun assume ses responsabilités, avance aujourd'hui l'ex-policier. Pour ma part, je n'ai rien à cacher et je n'ai rien à me reprocher. Car c'est bien Benalla, poursuit-il, qui a assisté à la négociation du contrat. Benalla encore qui est venu le solliciter, lui et sa société, et toujours Benalla qui lui a demandé de ne pas rompre le contrat quand les ennuis ont commencé avec les premières révélations en juillet dernier. Par ailleurs, avance encore Mediapart, après avoir été licencié de l'Élysée, Alexandre Benalla a fait en sorte de masquer son implication dans cette affaire. Il aurait notamment constitué une autre société, France Close Protection, pour y transférer le contrat déjà signé avec Mahmoudov, contrat qui pour le coup a été étoffé, portant désormais sur un montant de 980 000 euros. Et puis cette nouvelle société aurait permis de négocier un autre contrat avec un autre homme d'affaires, un Russe, encore une fois, Farhad Ahmedov, pour une somme là encore de 980 000 euros. Et pour toucher sa part sur ces contrats, affirme encore Mediapart, Benalla aurait constitué une société domiciliée au Maroc, Instra Conseil, société dont il aurait signé les statuts le 2 novembre dernier.
Elles alertent directement Matignon. 8 organisations syndicales ont écrit une lettre à Édouard Philippe pour demander le report de la réforme de la fonction publique. Mieux vaut attendre la fin de la réforme des retraites, disent les syndicats, pour ensuite regarder les rémunérations actuelles des fonctionnaires et de dénoncer le gel du point d'indice. Focus à présent sur le projet de loi sur l'école de la confiance. La réforme du ministre Jean-Michel Blanquer est examinée depuis hier à l'Assemblée nationale et cette nuit, les députés ont adopté un amendement du groupe Les Républicains pour instaurer la présence obligatoire du drapeau tricolore et du drapeau européen, ainsi que des paroles de la Marseillaise dans chacune des classes de l'école au lycée. La gauche regrette de n'avoir pas pu s'exprimer suffisamment sur le sujet. Au menu également de la réforme, la création d'une nouvelle catégorie d'assistants d'éducation, autrement dit des pions un peu particuliers qui pourront faire cours à des élèves et s'essayer ainsi au métier d'enseignant. L'objectif est de lutter contre la crise des vocations, mais la mesure est inadaptée selon Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES-FSU, le premier syndicat dans le secondaire.
On aura du mal à trouver de toute façon suffisamment de jeunes qui pourront conjuguer les études universitaires et des missions. Et puis ça pose toute une série de problèmes pour ces jeunes et puis pour les élèves, puisqu'on considère que sans formation spécifique, véritablement, ils peuvent, dès la licence, remplir des activités de nature pédagogique, voire en première année de master, remplacer des enseignants et avoir des classes à eux. C'est-à-dire un an plus tôt que dans la situation actuelle.
Eux n'auront aucune formation, ils se retrouveront devant élèves avec juste l'expérience d'avoir assisté les enseignants de leur établissement.
Et derrière ça, on a l'idée que acquérir un métier complexe comme le métier d'enseignant, ça peut se faire simplement par mimétisme, c'est-à-dire en regardant ce que font des enseignants titulaires plus expérimentés. Or, si on a besoin d'avoir des stages, ça c'est une véritable nécessité, on a surtout aussi besoin d'alternance entre la théorie et la pratique, d'un certain nombre donc d'outils qui sont donnés dans le cadre de la formation dans les nouveaux instituts du professorat et de l'éducation.
Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES-FSU, elle répondait à Kim Kasmi. Quand le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux laisse des traces, plusieurs journalistes et un publicitaire ont été suspendus par leurs employeurs hier pour avoir appartenu à la Ligue du LOL, un groupe créé sur Facebook accusé d'avoir harcelé d'autres d'autres journalistes et notamment des femmes. On y revient dans le journal de 7h30.
Et on y revient également aux environs de 7h40, Catherine. 7h09 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Catherine Dutu. Ils sont 12 dirigeants indépendantistes qui seront jugés aujourd'hui pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne en octobre 2017.
Un procès fleuve qui s'ouvre donc aujourd'hui à Madrid et qui devrait durer près de 3 mois. Les 12 indépendantistes risquent jusqu'à 25 ans d'emprisonnement. Leur famille multiplie les manifestations de soutien en Catalogne. Le reportage à Barcelone de Mélanie Nunes.
Depuis près de 15 mois, chaque lundi, Núria brandit le portrait de son fils, Jordi Sanchez, l'un des leaders emprisonnés, ancien responsable d'une association indépendantiste. Quelques habitants la saluent. Elle a lutté longtemps, dit-elle, pour leur libération, mais aujourd'hui, elle semble résignée.
Cette semaine, je serai très inquiète. Je sais que nous allons très mal le vivre. C'est un procès difficile. Nous espérons qu'ils sortent libres, mais ils ne voudront pas l'accepter.
À ses côtés, sa belle-fille, Susana Barreda. Cette mère de 3 enfants, épouse de Jordi Sanchez, ne se déplace plus sans son ruban jaune accroché sur son cœur, signe de soutien.
Avant, il n'y avait que Jordi qui était activiste. Nous, nous vivions tranquillement. Mais aujourd'hui, nous le sommes tous les 5. Il y a de l'incertitude. Ces accusations sont exagérées. Les peines sont très sévères. 17 ans, c'est de la folie.
Celle Bonnet, la compagne d'un autre leader emprisonné, Jordi Cuixart, regrette que ce procès se tienne à plus de 6 heures de route dans ses bras. Son fils, qui n'avait que quelques mois lorsque son père a été placé en détention.
C'est impossible pour les familles qui avons notre résidence, notre travail à Barcelone. C'est impossible de rester tout le procès. On est prêt pour le pire et on a l'espoir pour le meilleur. Alors ça, c'est une petite guerre, mais il est très conscient que tout ce qu'il a fait, c'est légitime.
Un procès qui devrait durer 3 mois, un jugement express avant les élections européennes, estiment les familles. Une tactique, selon elles, pour éviter tout scandale politique pendant le scrutin.
Mélanie Nunes à Barcelone pour France Culture. Aux États-Unis, Donald Trump repart en croisade pour son mur anti-immigration. Le président était hier soir à El Paso, à la frontière mexicaine, face à des milliers de supporters. Donald Trump est resté évasif, en revanche, sur les négociations en cours au Congrès pour éviter une nouvelle paralysie des administrations fédérales. Loïc Loury.
Thank you very much, El Paso.
Un parterre de casquettes rouges pour accueillir Donald Trump, finish the wall, terminer le mur en guise de slogan. Le président pourtant évite le sujet et s'attarde sur son bilan.
Il y a tellement de choses à célébrer dans notre pays, l'économie, l'armée, tellement de choses réalisées scientifiquement. Le monde essaye de copier ce que nous avons fait, ils ne pourront pas, c'est terminé.
Économie, diplomatie, enquête russe, Donald Trump temporise, démocrates et républicains en effet, aurait trouvé un accord pour éviter un nouveau shutdown sans annoncer la moindre garantie de financement pour le mur du président. Peu importe, finit-il par lâcher.
Histoire que vous le sachiez, on construit le mur, quoi qu'il arrive. Ils ont dit que des progrès avaient été faits pour un accord à l'instant. J'ai dit, attendez une minute, je dois prendre soin de mon peuple au Texas. Je dois y aller, je ne veux même pas en entendre parler.
Donald Trump va jusqu'à défendre le shutdown record de ces dernières semaines.
Sans le shutdown, nous n'aurions pas pu montrer à ce pays, à ses politiciens, au monde entier, ce qui se passe à la frontière. C'était une chose très importante que nous avons faite.
Mais le président est désormais acculé par cet accord de principe entre démocrates et républicains.
Loïc Loury aux États-Unis pour France Culture. Le temps de ce mardi 12 février ce matin, plus ensoleillé dans l'après-midi. Au meilleur de la journée, il fera entre 4 et 8 degrés dans le nord-est, 8 à 14 degrés partout ailleurs, Guillaume Erner.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Dans quelques instants, on évoque la situation politique en Algérie. Il est 7h13.